Chers amis, Hachem Alechim Tihyo, le Horech HaMidamim Hachanim Naimni. Mezenu B'Shem Adonai, Osei Shamaim Baaretz. Nous poursuivons notre étude sur le livre Zera Shimshon, Parashat Tetzaveh, le Darouche Aleph. Il ratson que cette étude soit portée au bénéfice de tous ceux qui sont en attente d'une Yeshua, d'une délivrance. Que ce soit une bonne santé, une Parnassa Tova, des enfants réussis et un Shidour. Et que toutes sortes de geulot à Kadosh Baruch Hu, il remplira et exaucera toutes nos prières par le mérite extraordinaire de notre maître, le Rabbeinu Shimshon Haim Nachmani Zichoto Tagen Alenu, que le mérite du Rav nous accompagne. Parashat Tetzaveh Ot Aleph. Darshinan, nous dit le Rav que dans notre parashat, nous savons pertinemment qu'il n'y a pas mentionné le nom de Moshe. Pourquoi n'est-il pas mentionné et à quoi cela fait référence? Alors il nous dit que la fin de la paracha précédente, le dernier mot de cette paracha, nous dit que toutes les poteaux du Hatser, du Mishkan, seront faits en Nehoshet. Nehoshet, c'est du cuivre. Et de suite, il est dit, Ve'ata Tetzaveh. Alors, nous dit le Rav, il convient de faire un commentaire sur cette juxtaposition. Alors, à quoi fait allusion le mot Nehoshet? Alors, nous dit le Rav, le mot Nehoshet, c'est l'acronyme, c'est-à-dire notre icône. Nun, c'est le nerf. Le Het, c'est Hodesh. Le Shin, c'est Shkalim. Et le Tav fait allusion au fait qu'Akash Bukhu a montré, tiré, tu les verras. Tu les verras et tu comprendras. Ce sont les trois choses, nous dit le Rav, que Moshe a eu une difficulté de compréhension à leur sujet. Nitkasha ba'em Moshe, comme cela est mentionné dans les Midrashim et dans le Gemara dans Menachot à la page 29. Et comme Moshe avait une incompréhension des choses, Akadosh Baruch Hu lui a montré. Comme il est dit, Ahodesh Hazé. C'est comme si c'est le démonstratif. Alors, il lui montre la chose afin que Moshe puisse la comprendre. Comme il est dit, il lui a montré une pièce de Mahasit HaShekel, une pièce en or enflammée. Donc, à chaque fois que Moshe a une difficulté, Akadosh Baruch Hu lui montre la chose. Maintenant, il s'agit d'analyser, de comprendre qu'est-ce que ça signifie que Moshe a eu une difficulté de compréhension. A priori, les éléments de quoi on parle, c'est le faire la menorah, ou le mois, le renouvellement de la nouvelle lune, ou les shkalim, on voit pas en quoi il y a une difficulté particulière. Moshe a bien entendu appris et compris, approfondi des sujets bien plus ardus et bien plus profonds que cela. Alors, en quoi tient, ou quel est le point d'incompréhension? Qu'il nous faut analyser. Il s'agit en fait la difficulté que ces trois choses-là, nous dit le Rav, sont une allusion spécifique pour Moshe. Et Moshe n'a pas compris l'allusion qu'Akadosh Baruch Hu lui fait à travers ces trois éléments. Et nous allons les voir. Benitan lo remez, Akadosh Baruch Hu lui a donné remez, une allusion à trois reprises, à travers ces trois choses. Les filles, shegamu b'shoshat varim manam imeno knisat haaretz. Parce qu'il y a trois reprises, Moshe va faire, entre guillemets, une erreur qui va l'empêcher de rentrer en Eretz Israël. La première, il s'agit de partir en mission. Lors de la vision du buisson ardent, Akadosh Baruch Hu lui ordonne d'aller en mission. Et que lui répond Moshe? Shelachna beyad tishlach. Envoie par celui que tu as l'habitude d'envoyer. Il s'agit d'Aaron. Il lui dit, envoie Aaron. Je refuse d'aller. Pourquoi refuse-t-il? Et quel impact cela va avoir sur le futur? Alors nous disent les maîtres dans le Midrash immédiatement que Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre Moshe et ça a fait, et cette colère a laissé une trace. C'est que Moshe aurait dû, il lui dit, Al tikrav al'homme, ne t'approche pas plus loin. C'est-à-dire que tu aurais dû être roi et tu ne le seras pas. Tu aurais dû être Kohen Gadol et là aussi tu ne le seras pas. Et il y a allusion aussi, Shelahna Biyat Tishlah, un envoi répété, comme si que la délivrance va se faire dans le temps, dans l'histoire, à plusieurs reprises, tu devras, toi, Hachem, envoyer quelqu'un pour sauver Israël. Ça, c'est la première. La deuxième chose, quand Moshe va voir Pharaon, à la fin de Parashat Shemot, et il rencontre à la sortie les responsables de Israël qui se font frapper, les chefs de corvée qui se font de plus en plus frapper, ils lui disent notre situation s'est aggravée. Et alors Moshe se retourne vers Dieu et lui dit Lama reota la amazé chez l'artani. Pourquoi donc tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc tu m'as envoyé? Et depuis que je suis parti parler à Pharaon, la situation du peuple s'est aggravée. Pourquoi Moshe dit cela? Parce qu'il dit, je suis parti mal, toi Hachem, tu m'as envoyé. Et là, je pensais voir que la première étape de la délivrance, que la situation commence à s'améliorer quelque part, ça commence à s'alléger, et que l'on voit un peu jaillir le rayonnement de la délivrance. Et là, rien, c'est l'obscurité qui s'est prise et la situation s'est aggravée de plus en plus. Et Moshe ne comprend pas ce qui se passe. La troisième chose, c'est que Moshe a accepté de son propre chef d'associer à la sortie d'Égypte le Erev Rav. Et ce Erev Rav-là va causer du tort à Israël. C'est eux qui, en fin de compte, vont faire l'idole du veau d'or et qui vont amener la destruction de la conséquence grave de ramener le Yetzer Hara en ce monde. Donc, et ça, c'est la cause, c'est une faute, une erreur de Moshe, une erreur d'appréciation de Moshe. Cependant, nous dit le Rav, que la faute de Memériva, quand on va reprocher à Moshe d'avoir frappé le rocher au lieu de lui avoir parlé, il me dit, donc comme vous n'avez pas sanctifié mon nom de manière extraordinaire en parlant au rocher, donc vous n'amènerez pas le peuple dans la terre. Lachen lotaviu. Et le mot lachen, c'est comme un serment qui est fait de la bouche de Dieu. Ce n'est pas une cause nouvelle du fait que Moshe ne rentrera pas en Israël. C'est là où la chose est scellée. Comme si que Hachem a juré. Mais la réalité du fait que Moshe ne rentre pas en Israël est bien antérieure à cela, comme nous l'avons dit, comme nous le verrons de suite. Ve'en lachen et la chevoie, ve'chouv. Et après cela, après le serment que Dieu a fait, il n'y a plus rien à faire. Donc Moshe ne peut plus annuler ce décret par des prières ou bien par toutes sortes de demandes, ça ne marchera plus. Alors au début, Moshe a une difficulté sur le renouvellement de la lune, qui fait allusion à la royauté d'Israël. Mais où neged, et ça c'est un rapport avec Shelahna Beyad Tishlah. Il dit, envoie donc celui que tu as l'habitude d'envoyer. Et donc automatiquement, lui a perdu la royauté. Il ne sera pas roi. Il ne sera pas celui qui les rentre en Eretz Israël, qui combat, qui fait la conquête, qui construit le temple. Il ne sera pas celui-là. De plus, la deuxième chose, c'est l'incompréhension de la menorah. Et la menorah a un lien avec le fait qu'il ait dit « Lama reota la amazé, pourquoi donc as-tu fait du mal à ce peuple? Je ne vois pas encore jaillir, poindre le début de la délivrance, la première étape de la délivrance. » Et la troisième chose, ce sont les shkalim. Il ne comprend pas comment ça marche. « Mahatzit ha-shekel. » Et ça, c'est un lien avec le Erev Rav que lui-même a accueilli. Et nous allons les expliquer un par un. Davar Barour, nous dit le Rav, il est clair que la lune, que le mois lunaire, fait allusion à la royauté. Alors, au début du mois, la lune n'est qu'un croissant, elle se renouvelle juste un petit croissant, et ce croissant-là va en se développant pour arriver au milieu du mois, le 15 du mois, c'est la pleine lune. Et après, cette lune-là va en diminuant, jusqu'au moment où le 30, elle disparaît et ça recommence. Ça ressemble exactement à la terre d'Israël qui est elle-même comparée à la peau du daim. Chez El Oro Eretzvi, on nous dit. La terre qui ressemble au daim. Et nous dit Zemet, à Tzvi, chez El Oro Mahazik et Bessaro. C'est-à-dire quand on dépaisse le daim et qu'on met la viande, sa chair, il n'y a pas suffisamment de peau pour envelopper la chair. Alors on dit Zemet, Bismanche, Yoshvim Alia, de même la terre d'Israël. Quand les Bnei Israël sont installés sur la terre, elle s'élargit. Et quand ils sont en exil, et la terre est délaissée, ils ne sont pas sur la terre se rétrécit. Et Keneged Touyami Marishonim, et par rapport aux 15 premiers jours du mois, la Levanava en se développant, c'est les 15 premiers jours ascendants pour atteindre l'apogée de la pleine lune. Alors on dit les 15 premiers jours font allusion, certaines nous disent les maîtres, aux 15 générations qui vont de Abraham jusqu'à Shlomo HaMelech, qui est l'apogée de cette royauté. Et alors, à ce moment-là, la lune est dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance. Et par rapport aux 15 jours suivants, la lune va en diminuant, elle s'affaiblit. Donc c'est-à-dire qu'on va, la génération suivante, c'est le fils de Shlomo qui a régné, Rehavam, jusqu'au dernier des rois d'Israël, Tzidkiyahou, qui a été emmené en captivité à Babel. Nabucodonosor lui a crevé les yeux. C'est la décadence de la royauté d'Israël. Et nous disent le Midrash nous dit que cette lune-là, elle est ascendante, mais aussi elle descend, elle perd de sa puissance. Alors ça dépend de notre mérite. Est-ce que nous allons compter du côté ascendant? Est-ce que nous allons fixer les mois et le calendrier par rapport au côté ascendant, aux 15 générations qui montent jusqu'à l'apogée, ou bien de l'autre côté, par la décadence. Alors nous disent les maîtres, « Imzachitem, si vous avez du mérite, vous compterez la lune, les mois, selon la pleine lune. » Dirtiv, comme il est dit, « Hodeshazelachem, ce mois-ci est pour vous le premier des mois. » De qui s'agit-il? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Pérez, etc. jusqu'à Shlomo. Et si vous n'avez pas de mérite, alors vous compterez à la diminution de sa lumière, à la décadence qui va de Rechavam, Avia, Asa, etc. jusqu'à Sidkiyahu. Viemaya Moshe Machnissam. Maintenant, si Moshe avait fait rentrer les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Le Olam ayu yoshvim alei atamid, ils se seraient installés là définitivement. Chez Aya, notre âme, Sham, Kanoda, Moshe Rabbeinu les aurait installés, plantés, ça aurait été scellé pour l'éternité. Le fait de posséder la terre. Et le temple n'aurait pas été détruit, il n'aurait pas été en exil. Et la lune aurait été continuellement en pleine lune et rayonnée, elle aurait rayonné comme un soleil. Mais la chienne, c'est un marlo à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, ce mois-ci est pour vous le premier des mois, il lui dit à Hodesh, le mot Hodesh sous-entend un renouveau. Et s'il y a renouveau, cela signifie qu'il y a aussi des cadences, comme cela se passe. Au début du mois, alors la lune renaît, réapparaît, mais elle disparaît à la fin du mois. Et ça, Moshe ne le comprend pas. Az eralo akadosh boru, ça veut dire qu'en vérité, nous savons pertinemment que toutes les fêtes pratiquement sont fixées le 15 du mois, comme Pessah, comme Pourri, comme Toubishvat, Toubéav, Sukkot, les fêtes essentielles sont fixées. Les fêtes qui nous dépendent du temps sont fixées justement le 15, parce que le 15, c'est la pleine lune. Donc on aurait dû fixer le Rosh Chodesh, la pleine lune. Et ça, Moshe a une incompréhension. Pourquoi, toi, tu me montres la lune avec juste un petit croissant? Et à ce sujet, qui lui dit, c'est à Kajmoukho lui enseigne, lui montre que toi, Moshe, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Toi, Moshe, ton nom ne sera pas mentionné dans cette paracha. Et ça fait référence justement au fait que l'influence de Moshe est limitée. limité à 40 ans. Mais après, il faudra aller en exil. Et après, il faudra avoir une délivrance totale qui viendra à la fin des temps. Ça, c'est pour le Hodesh. La deuxième chose, c'est la menorah. Alors, au sujet de la menorah, dans notre paracha, il est dit, « Te'asé à menorah ». Il a dit, tu feras la menorah. Et après, elle a marqué, « Miksha te'asé ». En un bloc, elle se fera, elle sera faite. Le verbe est au passif. Et en plus, il a un yud à l'intérieur du mot ta'asé. Il n'y a pas marqué ta'asé, ta'asé avec un yud. À quoi fait référence ce yud? Que vient faire ce yud ici? Ils nous disent les maîtres dans le Midrash que c'est allusion, ce yud, la lettre yod, qui valeur numérique de 10, fait allusion à Odi Menorot que Shlomo HaMelech fera dans le temple. Comme cela est mentionné dans Mnahot, à la page 90 ou 99. Et le Rav Sifti Cohen donne une raison à cela. Pourquoi Shlomo a fait 10 menorot? Alors que dans le Mishkan, il n'y en a qu'une. Les filles, j'ai bimé Shlomo, parce que Shlomo a dominé le monde supérieur et le monde inférieur. Il avait une domination totale et une influence totale sur toutes les 70 nations. Les 70 nations, la menorah a 7 branches et 10 menorot, donc avec 70 branches, 70 lumières qui maîtrisent et influent et rayonnent sur le monde de telle sorte que les influences négatives des peuples sont totalement éliminées. Ça montre que d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue puissance de compréhension, du savoir, c'est le savoir qui donne la puissance et la domination. Donc, c'est ce qui a marqué ici. Alors, pourquoi Moshe ne fait pas 10 menorot? Pourquoi Moshe, il se contente d'en faire qu'une menorah avec cette branche? Alors, il lui dit, toi, Moshe, ton influence est relative. Tu dois, dans le désert, dominer et soumettre les 7 nations qui sont installées en Eretz Israël, les 7 peuples de Canaan. Donc il te suffit de faire uniquement une menorah à cette branche. Quand Moshe a vu qu'Akash Baruch Hu ne lui ordonne pas de faire qu'une seule menorah, alors il ne comprend pas. Shaya Sover, j'ai de sa rire esser, parce que Moshe pensait qu'il en fallait 10, comme nous avons dit au sujet de Shlomo, afin de soumettre tous les 70 nations. Mais alors que Jboru, Tsurat Amenora, il lui a montré la forme et de la manière dont il fallait faire la menorah. Kloma, elle serait rak les menorah, il te suffit d'en faire une. Parce que toi, ton influence doit agir uniquement sur les 7 peuples de Canaan. Et c'est seulement après que va venir Yoshua, qui va faire la conquête, et lui va exterminer et dominer les 31 peuples, 31 rois qui dominent Israël. 31, valeur numérique de L. L sous-entend la puissance, la chante cachée. V'El Elea Areslaka. V'Hakar, et seulement après viendra Shlomo, qui dominera les 70 nations. Bim loaya, Moshe Omer, si Moshe n'avait pas dit, pourquoi donc as-tu fait du mal à ce peuple, la Mariota l'Armazé, qui sous-entend, comme je l'ai dit, que la délivrance doit se produire par étapes, alors que la volonté de Dieu, c'est que la délivrance vienne d'un coup, d'un instant, en un instant. Et Moshe réclame que ça se passe par étapes. Alors il dit, si ça se passe par étapes, comme il le mentionne juste après, les 4 verbes de la Géoula, Véotseti, Véitsati, Végaati, Vélakarti, ces 4 verbes-là sous-entendent les 4 étapes de la délivrance. Et non seulement les 4 étapes de la délivrance d'Égypte, mais aussi de la délivrance totale, puisqu'elles font ces 4 verbes, ces 4 léchonotes, font référence aux 4 exils à venir. Donc, le fait d'avoir réclamer des étapes dans la délivrance, de voir un début de quelque chose, en soi, fait que cette délivrance sera limitée. On le voit dans la menorah, puisque la menorah se fait. Moshe Rabbeinu ne comprend pas comment faire la menorah. Alors il dit, la menorah se fera. C'est-à-dire, la Midrashique, il a pris l'or, le bloc d'or, il l'a jeté dans le feu et la menorah a jailli entièrement en fait d'elle-même, en un instant. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la fabrication, la construction d'elle-même de la menorah et de la délivrance qui arrive subitement, en un instant, et ça se passe de manière globale, générale, au même instant, aux quatre coins de la terre, la délivrance se produit. Pas besoin de voir des actes ou des éléments, il y a tel événement, alors il y a encore un tel autre événement, etc. Tout ça, ça ne se produira pas à la fin des temps. À la fin des temps, nous serons dans l'ignorance totale de ce qui peut se produire. Et subitement, la délivrance se produit, on le saura, comme dit le Baal HaLechem, au même instant, aux quatre coins de la terre. Ve'av, alors. Et ve'av, she'shama Moshe, Akadosh Baruch Hu tziva alav, ma'ati. Alors, c'est ça l'idée qu'Akadosh Baruch Hu lui transmet, que la menorah, tu ne peux pas faire, toi, 10 menorahs, tu n'en feras qu'une. Donc, ton influence est limitée. La troisième chose, c'est ma'ati ta'shekel. Là aussi, il lui dit, fais mahatit ha-shekel. Moshe ne comprend pas. Des mashma. Pourquoi la moitié d'un shekel? Pourquoi pas un shekel entier? Des mashma. Hashem olam malé, ven Hashem malé. Le mahatit sous-entend que la puissance et la domination de Dieu sur terre est limitée, est de moitié. Le nom de Dieu est tranché, est coupé, il n'est pas entier. Ou kshalo. Alors sur ça, Moshe a une difficulté. Mais alors, c'est moi qui vais rentrer, pénétrer les enfants d'Israël dans la terre d'Israël. Si c'est moi, alors il devrait y avoir un nom entier, le monde totalement réparé et le nom de Dieu entier. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, il lui montre une demi-pièce, il lui montre une pièce de valeur d'un demi-shekel. Que signifie cela? Alors on dit le Rav Tifté Cohen que le mot shekel en hadbash, c'est-à-dire il y a des combinaisons qui le alef, il y a une combinaison particulière qui est rapportée dans beaucoup de svarim, dans le Zohar, où on interchange le alef avec le tav, le shin avec le bet, etc. Et le lamed avec le kaf. Donc quand on écrit shekel, le shin se change par un bet, le kouf par un dalet. Et le lamet par un kaf, ce qui fait 26, kaf vav. C'est le nom de Dieu, yod ke vav ke. Mais ce shekel-là, ce 26, est juste mahatit, coupé, et un demi-26. Comme pour nous dire que le nom de Dieu n'est pas entier. La Gemara dit, dans Yeruvim, k'sham k'deamar abir miya bar el-azar, miyom shehara vet amikdash. Depuis le jour de la destruction, d'ailleurs là, l'âme shishtamesh behatsi otiot, bechte otiot. Il est suffisant au monde d'utiliser que deux lettres du nom, et pas toutes les quatre lettres. Demehar shen haolam malé, puisque le monde n'est pas plein, en raouchi kare hashem et la haolam malé. Le nom de Dieu ne peut être utilisé et appelé que sur un monde entier. Comme il est dit dans le verset, Beyom Asot Hashem Elohim Erez Veshamaim. Donc là, dans ce verset-là, il y a marqué Beyom, le jour où Hashem Elohim a fait le ciel et la terre. Donc le nom de Dieu est entier dans un monde entier. Et Shem Avayam est le nom de Dieu. Avaya Yotke Vavke traduit justement la réalité absolue de la présence de Dieu qui fait vivre et qui fait exister ce monde. Ou mes atam, en nikra Hashem kirtavo elabikinuyo. Et comme cette puissance du nom ne peut pas être appréhendée et comprise de manière parfaite, c'est pour ça que le nom de Dieu n'est pas prononcé tel qu'il est écrit, mais par le nom de Dieu, Aleph Dalet Non Yod. Et ça, cette erreur, enfin, ce inyan-là de Mahatit Hashekel est lié justement au Hegel. Ils ont fauté dans le Hegel. Et le Hegel a été causé par, justement, le Erev Rav. C'est gens que Moshe a associés au peuple. Et c'est eux qui ont fauté, qui ont fait fauter Am Israël. Vidasham, dans la Gemara dit, Midepalho Israël à Hegel, puisqu'ils se sont prosternés au Hegel, Galed Adar Tayou, ils ont dévoilé qu'ils veulent, que ça leur fait plaisir de faire Avodah Zara. Et c'est ça, donc le nerf, donc là, reprenons le terme, dernier mot de la paracha précédente, Ner Hoshet, le Nun fait allusion au nerf, à la menorah, le Het fait allusion au Hodesh, et le Shin fait allusion au Shekel. Tiré, le Taf s'est tiré, il a été obligé de le lui montrer. Et de suite, il est marqué « Ve'ata tetzave ». « Ata tetzave » signifie « Et toi, tu ordonneras. Qui es-tu, toi ?» Pourquoi ici n'est-il pas, la paracha n'est-elle pas introduite par un verset habituel, Vaïdaber Hashem, El Moshe, les morts? Parce que justement, la Torah ne veut pas mentionner le nom de Moshe. Justement, pourquoi n'est-il pas mentionné? À cause des trois, à cause de ce Nehoshet, à cause de ces erreurs que Moshe a fait, et à cause de mauvaises appréciations, pourquoi envoie Hashem Arnabé à Tishlar, la Ma'ariot à la Hamazé et l'association du Erevrav. Il y a lieu aussi de remarquer que nous donnons Mahatit à Shekel pour contrebalancer l'Eshkalim de Haman. Et le Mahatit à Shekel va contrebalancer justement la force de Amalek. Et nous disons au sujet de Amalek, tant que Amalek est en ce monde, le nom de Dieu est tronqué. Comme dit le verset, le nom de Dieu est manquant. Le mot qui sait, il est marqué qu'est-ce, il n'y a pas marqué qui sait. Le Aleph n'est pas là. Alors jusqu'au moment où il va venir, le Ya, qui a d'Alkes, Ya, le nom de Dieu est de deux lettres, Yotke. Où est passé le Vav et les dernières lettres? Où est passé le Aleph de qui sait? Alors il est marqué ça ailleurs. Il va les Moshavlo. Quand Akash Vohu réintroduira ces trois lettres en son monde, alors le monde atteindra la perfection et la royauté divine sera rétablie, le nom de Dieu sera entier. Mais pour cela, il faut éliminer Amalek. Il faut qu'Amalek disparaisse. Et c'est le lien qu'il y a avec l'histoire de Haman et de Purim. Mais ici, Amara Katouf, au sujet, et lors de la faute du Vaudor, il est dit, Ataya data. Et ta âme qui béra ou Aaron dit à Moshe, tu sais pertinemment, ou Aaron, Moshe dit à Aaron, tu sais pertinemment que le peuple est béra ou il est béra. Que signifie ce terme? Les Mfarshim se questionnent, pourquoi qualifie-t-on le peuple par le mal? Comment est-ce possible de le qualifier par le mal alors que précédemment, quelques jours avant, Akash Bourou s'est dévoilé à eux? Et ils ont accepté la Torah. Et ils ont entendu la voix de Dieu, panim el panim, etc. Et nous dit le Zohar, chez Aman, l'Aman, qui tombait, l'Ohaya Yored la Erevrav. Le Erevrav ne pouvait pas en consommer. L'Aman tombait juste pour Israël. Vehem, Ayou, Nizonim et Achar. Eux, ils mangeaient les restes de l'Aman. Ou Bishvilze, et parce qu'ils n'avaient pas accès à l'Aman, à la spiritualité, à cet aliment particulier, extraordinaire, que dont se nourrissent les anges. Ils n'avaient pas accès à ça, donc ils ont été jaloux d'Israël et ils ont décidé de les faire fauter. Lachen amar lo Aaron. C'est pour cela que Aaron lui dit, Ata et ta'am. D'ailleurs, aïe revrav. Tu connais le peuple. Le peuple, de quoi s'agit-il? Le peuple, quand on dit le peuple, c'est le degré le plus bas. Il s'agit du revrav. Qui berau? Il est bera. Bera, ce sont les mêmes lettres que erev. Vehem otiot raav. Et c'est les mêmes lettres que Rahab, ils sont affamés. Ils sont affamés, ils désirent la manne qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Et le Rav Sifte Cohen nous dit, « Sha'erev Rav lo ayuto amim et aman, kemo sha'ya yored. » Ils ne goûtaient pas la manne telle qu'elle tombait. Ils étaient obligés de le travailler, de le moudre, d'en faire de la farine et d'en faire des gâteaux, etc. Comme nous disent les élèves les Gouréhari, et comme cela est marqué dans beaucoup de commentateurs. Veaf les filles d'Ad. Maintenant, donc nous avons trois éléments qui vont causer justement à Moshe, qui vont amener Moshe à rester en dehors d'Israël à cause de ses erreurs d'appréciation. Cependant, maintenant, dans la Gemara, dans Menachot, il est dit trois choses. Moshe nitkasha beshoshat barim. Mais là-bas, Il est dit à la place de Shkalim, il est dit les Shratim. Il y a 8 reptiles qui sont interdits à la consommation, qui rendent tamés. Alors là-bas, il est dit, on introduit les Shratim. Et Moshe n'a pas compris exactement de quoi il s'agissait dans ces reptiles. Ces reptiles-là font allusion au Erevrav, de manière certaine, qui ont, les reptiles, c'est allusion à la Touma, en faisant le Vaudor, ils ont redonné une structure totale et puissante aux notions de la Touma, et du Yetzirara. Donc ils l'ont revitalisé. Et quel est le Yetzirara? Il s'appelle Samech Mem Aleph Lamed. Et les Shmona Shratim en question, les 8 reptiles, c'est les 8 forces de ce Yetzirara, qui a plusieurs noms, etc. Mais où sont Masham, où Malach HaMavet Beshmona? Et on qualifie le Malach HaMavet qui a 8 noms. Vechen Etab Midrash. Zot Ahaya. Voici les animaux que vous mangerez, ou ceux que vous ne mangerez pas. Chez Kol Elou, Neged Umot. Parce que ces aliments-là, ces animaux que nous ne pouvons pas consommer, font allusion aux 4 exils. Le chabot, etc., fait allusion à Babel, etc. Mais Atin, Ami, Shapir, et ça correspond parfaitement au Rachet et Vod, du mot Nerhanchet. Ner, c'est Ner, comme nous l'avons dit, c'est la menorah. Hadash, c'est le mois, Hodesh. Shratim, alors au lieu de mettre un shin pour Shkalim, on met un shin pour Shratim. Tirez, tu verras et tu comprendras. La raison profonde pour laquelle ton nom n'est pas mentionné dans cette paracha. Et puisque ton nom, Moshe, n'est pas mentionné dans cette paracha, cela sous-entend que la Géoula est limitée et que nous devrons partir en exil, que le temple sera détruit, que nous devons être dominés par 4 autres empires, et nous espérons de manière certaine que la Géoula se produise en un instant, le jour où Akadosh Baruch Hu le décidera, comme il est dit, Be'eta, Ahishena, si c'est en son temps ou je la fais venir avant. Et cette Géoula-là se produira de manière certaine, de manière subite, sans qu'on s'y attende, sans que rien ne laisse présager que cette Géoula peut se produire. Et elle se produira comme, j'explique cela un peu plus, la sortie d'Égypte, les 9 premières plaies sont un processus de délivrance. Mais lors de la dernière plaie, la délivrance se produit en un instant. Il n'y a pas de préparation à cela, c'est tout immédiat. Dès que la plaie des premiers-nés frappe, immédiatement Israël est libéré. Donc c'est la libération, et c'est en vérité, c'est cela la libération qui aurait dû se produire. Unique libération qui aurait dû se produire, c'est la plaie de la mort des premiers-nés. Et immédiatement Israël aurait été libéré. Et c'est ainsi que se passera la délivrance à venir. Donc il n'y a rien à observer qui laisserait présager ou comprendre que la Géoula va arriver. Puisque elle n'est pas apparente de manière rationnelle. Donc, le Rav fait ici une différence entre une Géoula qui vient du bas vers le haut ou une Géoula qui viendrait du haut vers le bas. Et la Géoula à venir est une Géoula immédiate qui agit du haut vers le bas sans que nous ayons quoi que ce soit à faire, uniquement à l'attendre, comme dit le prophète, Habakkuk ve'emidam alahat. Que toute la Torah tient sur un pilier, tzadik, be'emunato yahyeh. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.